them shake. Retrouve les podcasts des émissions sur Libre Radio, www.libradio.org.
Bonjour à tous. Donc, Ivan de Persio, président de délégation de l'UJTB de Capitula. Donc, je suis à Capitula, dans Kosli, qui est basé donc, près de Charleroi. Je suis à Capitula depuis plus de 20 ans. Il y a mes responsables syndicaux en face de moi qui ont aussi travaillé plus de 30 ans dans l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qu'on connaît bien. L'histoire, mon père, il a travaillé aussi maintenant. Donc, déjà tout petit, j'ai suivi les différents conflits sociaux parce que Caterpillar, c'est une entreprise très idéologique, mais aussi très, très agressive sur les travailleurs. Il y a eu, durant toute son histoire, ils sont en Belgique depuis plus de 50 ans. Et ça a été 50 ans de lutte. On explique souvent ce qu'ils ont construit, mais il y a eu des grosses bagarres dans cette entreprise. Donc voilà, on est une des plus grandes entreprises du groupe en dehors des États-Unis. Une entreprise qui a généré énormément de bénéfices et qui était quand même très très importante au niveau du groupe. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de ces entreprises, mais c'est quand même été la première boîte américaine arrivée dans la région, et donc la région s'est quand même mise à genoux pour accueillir cette multinationale américaine avec toutes les facilités qu'il fallait avoir. Et donc elle a connu énormément d'années de prospérité. Après, moi, il y a eu, je vais passer directement en 2008, quand il y a eu cette crise financière, mais qui n'était pas que financière, qui était aussi une crise de production et de surproduction, et puis là, il était un petit peu déjà dans ce climat-là et dans les mêmes problématiques que l'automobile. Pour ne citer que l'automobile, déjà à partir de 2008, on a commencé à subir énormément de chômage économique et ne voyant pas de reprise concrète, mis à part un succès en 2011, mais en 2013, on a subi déjà une grosse restructuration et qui nous avait quand même déjà mené à attaquer quand même la filiale suisse. Parce que depuis lors, depuis fin des années 90, en Belgique, quand il y a un plan de licenciement collectif, un plan de restructuration, il y a une procédure qui s'enclenche qui s'appelle la loi Renault, qui protège temporairement les travailleurs et qui permet aux travailleurs d'avoir une consultation, d'essayer d'avoir une compréhension du motif du plan de licenciement. Mais le problème, c'est que Caterpillar souvent mettait l'accent sur les coûts salariaux. On était trop cher par rapport à d'autres sites, hein, concurrence interne très très agressive par rapport à cette surcapacité de production qu'ils ont créée. Et puis déjà en 2013, ce qu'on contestait aux entreprises, c'est qu'il était difficile pour nous de contredire la direction parce qu'effectivement toutes les richesses produites par les travailleurs de Bosni était planqué à Genève. Donc déjà là, il y avait des signaux que nous avions déjà lancés à l'époque au niveau des politiques locales et fédérales, que les lois belges étaient déjà court-circuitées par rapport au fait que Caterpillar avait, de manière légale, c'est un problème aussi, planqué tous ses bénéfices en Suisse et qu'on était devenu une entreprise de service qui ne faisait que transformer une matière première en une machine, mais que l'achat des pièces pour construire cette machine et la vente de ces machines que nous construisons, Tesla, on fait les plus gros produits de Caterpillar, donc ce sont des très grosses machines qui se vendent à un prix très très élevé, ben, tout ça on ne le voit pas dans la comptabilité locale, parce que tout ça est géré par la filiale suisse. Donc déjà là, il y avait eu des sonnettes d'alarme qui avaient été sonnées. Bon, après, c'était une restructuration qui licenciait quand même 40% du personnel. Bon, ce qu'on espérait localement, c'est qu'après cette restructuration, on allait nous laisser tranquille. Mais en tout cas, il est tranquille au moins jusqu'en 2020. Malheureusement, ben, on voit qu'au niveau économie mondiale, on voit ce qui se passe. Bon, c'est principalement en Asie et en Amérique du Sud que ça a chuté. Et donc, Caterpillar, par rapport à sa cryptographie, a créé une surcapacité de production, et probablement que voilà, du fait qu'on est un des plus grands sites et que c'est purement une stratégie purement financière, ils veulent récupérer une masse d'argent assez rapidement au bénéfice de leurs actionnaires, ben, ils ont décidé de fermer l'un des plus grands sites, c'est celui de Bosnie. Donc, c'est clair que c'est un groupe qui continue à faire des bénéfices. Ça, on le voit que dans les chiffres mondiaux, on ne le voit que très peu dans la comptabilité belge, parce que voilà, bon, tout est mis en Suisse. Mais dans les chiffres mondiaux, on voit que c'est un groupe, certes, qui ne fait plus les bénéfices du passé, mais qui fait encore énormément de bénéfices. Ce qui est scandaleux, c'est que ces quatre dernières années, le chiffre d'affaires baisse, mais les dividendes distribués aux actionnaires ne font qu'augmenter. Donc c'est de record en record. Si on prend l'année 2013, c'était le record. 2014, c'est le record. Et 2015, ça a été encore une année record de redistribution des dividendes. Mais tout ça a un coût pour les travailleurs. Mais le coût, c'est que redistribuer autant ses actionnaires, alors en faisant moins de chiffre d'affaires, il n'y a pas de miracle. Il faut s'ouvrir dans l'emploi. Il faut fermer des entreprises. Donc ça, c'est en gros ce qu'on est en train de subir. Alors, on a eu quand même l'impression que politiquement et même médiatiquement, du fait qu'ils ferment le site de Bosnie, il y en a qui sont osé à s'exprimer un peu plus que par le passé. Effectivement, il y a eu un article du Soir, donc c'est le journal quand même le plus important de la Belgique, francophone, en tout cas tout à fait francophone, qui a dénoncé clairement la filiale suisse qui siphonnait le site de Bosnie. Donc ils ont mis vraiment tout l'organigramme et tout le montage financier de la multinationale. Ils sont revenus aussi que le Trésor américain aussi condamne les méthodes de Caterpillar et que le Trésor américain se prend aussi une partie des bénéfices qui n'ont pas été déclarés aux États-Unis. Et donc tout ça a été mis à la une et ça a fait quand même beaucoup plus de bruit que d'habitude, parce que ce n'était pas nouveau, nous, en tant que syndicalistes, on le savait bien. Et du fait qu'ils ferment, on sent que les langues, il y a des politiques qui s'expriment, bon, ça a créé quand même beaucoup d'émotions, parce que c'est une très grosse entreprise, et dans une région déjà qui a été fortement touchée par la fermeture de la sidérurgie, la verrerie, et maintenant même la métallurgie. Et donc, il y a énormément d'inquiétude au niveau des autorités locales. Et même national, parce que quand même, ça a été une annonce quand même assez terrible. Voilà, ça a été fait aussi à la méthode américaine, mais un Américain qui est venu, qui a pris l'avion, qu'on ne connaissait pas, qui est venu annoncer comme ça aux entreprises en 25 minutes, nous avons décidé de fermer l'entreprise. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est que quand c'est annoncé, ben, c'est annoncé que contractuellement, c'est la filiale suisse qui coupe toute la production avec Bosnie. Parce que nous sommes légalement liés par cette filiale. Et c'est ça aussi qui a fait surface. Comment ça se fait que c'est une entreprise qui ne produit aucune machine, qui décide comme ça de couper des productions et qui n'ont aucune connaissance technique sur les produits que nous produisons. Alors, je ne vous cache pas que ça a été très difficile parce que c'était une annonce quand même inattendue, qui a créé énormément d'émotions dans les premiers jours, et puis énormément de colère. Donc, le site est resté paralysé pendant 2 semaines parce qu'il y avait une maîtrise qui était totalement décapitée. Donc, on s'est retrouvé sans manager, sans rien. Et c'est les organisations syndicales qui ont dû, en tout cas, reprendre la direction de cette entreprise et éviter des dérapages qui peuvent être très très graves. Parce qu'on connaît aussi, peut-être moins en Suisse, en tout cas les contacts que j'ai eu avec les médias publics suisses, mais bon, en Belgique, il y a différents types de médias, et là, ils n'attendent que de l'émotion, ils n'attendent que de la casse. Le problème, c'est que quand il y a de la casse, on ne parle plus du vrai problème de l'injustice de redistribuer des actionnaires, des licenciés, de licenciés alors qu'ils sont bénéficiaires, et toutes leurs pratiques fiscales. Donc, ça a été quand même un scénario assez nouveau pour nous. Le problème, c'est que quand on a commencé à reprendre une certaine activité contrôlée par des organisations syndicales, parce que ce n'est plus la même entreprise depuis la fermeture qui a été annoncée le 2 septembre, après, il a fallu reprendre certaines expéditions, on a été menacé par la filiale suisse d'une mise en demeure. Donc ça a été assez nouveau et on n'en parle pas assez. C'est que non seulement c'est un siège qui nous pompe toutes nos richesses, et qui nous affaiblit d'un point de vue comptable, mais en plus, on a l'impression que c'est même les lois suisses qui veulent nous imposer en tout cas certaines choses. Et donc là, on voit toute l'impuissance aussi politique belge face à cette problématique. On en a eu la visite de huissiers sur site qui ont été envoyés par la Suisse. Et donc ça aussi, c'est autant on savait depuis des années qu'on avait la Suisse au-dessus de nous, on avait le Luxembourg, hein, les deux sites financiers, mais qu'eux allaient nous envoyer une mise en demeure avec le contrat et qu'il y avait un risque clair de tomber en... On peut tomber en faillite au niveau de 4 Belgium et de survivre avec des fonds propres, mais qui ne sont que trop légers par rapport à la taille de l'entreprise, qui est quand même une des plus grosses entreprises de Belgique. Donc ça, pour nous, c'est un scénario qu'on ne s'était jamais imaginé, et c'est ce qu'on a voulu aussi dénoncer à travers notre action d'aujourd'hui. Il y a l'optimisation fiscale, mais il y a aussi toute cette pression qu'ils nous mettent, alors qu'ils ont déjà décidé de nous foutre dehors, de nous licencier. Donc ça, je pense que c'est un point aussi, parce que j'ai suivi aussi tout ce qui se passait en étant en contact. Et donc, on savait qu'il y avait des connexions avec l'action d'aujourd'hui, mais ça, c'est assez nouveau, le fait qu'ils nous mettent, et encore aujourd'hui, le contact qu'on a eu, qu'on a discuté de toute cette problématique. Et donc, concrètement, ils nous disent, vous nous faites perdre de l'argent. Et donc, voilà pourquoi on a cet investissement, qui aujourd'hui est un investissement, mais que s'il est appliqué, ça va mettre en péril notamment les discussions qui pourraient aller sur le volet social dans le futur. On n'est pas encore à ce niveau-là aujourd'hui localement. On veut essayer de sauver un maximum d'emplois. On a la possibilité, à travers cette procédure, l'organisme, de déposer des alternatives, qu'elles soient vis-à-vis de Caterpillar ou trouver un autre industriel. Ça s'est déjà fait en Belgique avant de se précipiter, comme malheureusement d'autres le font, de déjà négocier un volet social et de clôturer cette affaire. Voilà, j'ai passé un petit peu rapidement. En tout cas, je tenais quand même à vous remercier tous pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et je pense que c'est aussi un plus pour les travailleurs qui sont venus. On a même eu 300 travailleurs qui sont venus avec nous. On est parti hier soir du CIP. Donc c'était pas simple comme voyage, je veux dire comme trajet, mais il fallait le faire parce que voilà, du fait qu'on n'a plus d'interlocuteurs devant nous en Belgique, on avait un besoin aussi de s'exprimer devant une direction à Genève. Et le fait que voilà, il y a de la solidarité en Suisse aussi, parce que c'est pas très connu en Belgique, il y a aussi une résistance politique en Suisse et un syndicat qui a des positions quasiment similaires aux nôtres. On avait déjà rencontré aussi Lumia. Petite parenthèse, Caterpillar, il y a 2 ans d'ici, ils ont racheté l'entreprise Turbomac en Suisse italienne, du côté de Vientine. Ils l'ont acheté pour la fermer et récupérer des brevets. Donc, ça, c'est aussi l'attitude de cette multinationale qui fait des dégâts un petit peu partout en Europe. Et c'est pour ça aussi que nous avons eu toute la solidarité de nos collègues allemands, anglais, italiens, français. Et du Royaume-Uni. En tout cas, voilà, le travailleur des contacts que j'ai vus tout à l'heure sur la place était le fait de ne pas être isolé dans cette lutte leur a donné quand même une bonne bouffée d'oxygène. Je pense que c'est important que je vous dise. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. On est désolé par, disons, la météo d'abord, qui vous a mis sous la pluie toute la journée. Le fait que, disons, on est actuellement dans une à Genève, dans une période, je l'expliquais au début, un peu de trêve entre une mobilisation sociale importante et une attaque très très dure. Et donc, la droite majoritaire du gouvernement a mis maintenant dans l'immédiat un peu un frein cette année et l'année prochaine aux coupes budgétaires. Ils ont continué, mais ils ont mis un frein pour faire passer une réforme à laquelle personne ne comprend rien, qui est cette réforme de l'imposition des entreprises. Donc, d'où une situation qui est assez difficile pour nous. Et bien sûr, sans doute moins difficile pour vous immédiatement, vu que c'est la fermeture des plus grandes entreprises de Belgique. Je pense que la parole est à tout le monde. Je voulais juste vous demander comment s'est passée la délégation et l'entrevue, disons ce que vous pouvez en dire, l'entrevue que vous avez eue, j'imagine que c'est un peu formel, avec la direction genevoise du siège, enfin genevoise ou internationale, du siège de Caterpillar. Et puis d'autre part, quelle est la situation, disons, des travailleurs qui ont été licenciés? Est-ce que cette loi Renault, elle a l'avantage d'offrir une certaine protection, mais est-ce qu'elle n'a pas l'inconvénient de démobiliser les travailleurs en donnant l'impression qu'on cherche une solution? C'est peut-être à toi que ça s'adresse, mais après, tout le monde peut intervenir.
Ben, la rencontre, je pense que bon, vous avez compris à travers nos discours qu'on n'attendait pas un changement radical de cette multinationale qu'on connaît. Je pense qu'on ne les a quand même pas vus à l'aise. Hein. Je pense que le fait d'amener des travailleurs ici a montré qu'on existait malgré tout et qu'il n'y a pas que des actionnaires qui comptent dans cette multinationale. Et on les a vus quand même, bon, on a vu un site assez vite, tout le monde a eu le mandat de rester chez soi, à la maison, il n'y avait pas beaucoup d'employés. On a vu bien sûr la sécurité locale, mais aussi un groupe privé de sécurité bien présent. Donc c'est qu'ils ont probablement beaucoup de choses à se reprocher, ils vont être en sécurité comme ça. Donc on n'a pas vu une direction à l'aise. C'est très clair. Bon, ils n'ont pas changé. Pour eux, l'aspect financier est très important. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas. Mais bon, nous, on voulait aussi montrer, je pense que voilà, il y avait. On voulait montrer une solidarité internationale. Je pense qu'ils voient quand même des changements radicaux au sein du comité d'entreprise européen. Le fait qu'il y ait des délégations et des travailleurs qui viennent d'entreprises qui ne sont pas directement touchées par les fermetures, ça va probablement ça va les interpeller. Et puis, je pense qu'aussi, voilà, comme je l'ai dit, on avait un besoin de les rencontrer et de dénoncer tout le premier temps. Il y avait la presse suisse qui, quand même, vient porter le problème, mais aussi la presse locale. Et pour nous, belges, c'est important de montrer ce processus de l'ONU et qu'effectivement, canalise certaines émotions, certaines colères. On en est bien conscient parce que voilà, on a vécu d'autres conflits dans cette entreprise avant la Renault qui ont été beaucoup plus durs. Mais ce que nous, on veut essayer de faire, c'est justement de ne pas s'endormir dans cette procédure. Et c'est pour ça que le programme n'était pas au finish comme on peut le faire dans d'autres boîtes. Mais on programme des actions perlées, mais avec des objectifs très clairs et visibles. Donc, le fait de venir ici faisait partie d'un agenda d'action qu'on a programmé pour, en tout cas, ne pas se laisser endormir et qu'on nous oublie et continuer à mettre pression sur la direction locale, mais aussi sur les autorités politiques qui, quand même, sont impuissantes sur plusieurs dossiers. Sur le fait qu'on ferme une entreprise qui est bénéficiaire, sur le fait que les lois suisses viennent nous mettre la pression et que. Donc on est en train de dénoncer, et en tout cas l'objectif, aucun problème de le dire ici avec vous, mais on veut aussi à un moment donné dénoncer les lacunes de cette loi. Le cas de figure Caterpillar, sans commencer à faire de l'utopie ou de rêver, mais est un cas quand même, on dit d'école, dans le sens que c'est une entreprise, on a tout donné, on a donné la flexibilité, c'est pas spécialement d'accord, on a négocié, on travaille de nuit, d'après-midi, du matin, le samedi, le dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est une entreprise ultra moderne. Ici, avec la restructuration de 2013, la majorité des travailleurs ont entre 25 et 45 ans. Donc, on a tout donné, l'optimisation fiscale, des facilités de cotisation sociale, des facilités de précompte. On a tout donné et malgré tout, elle freine. Et donc, on veut utiliser ce cas pour mettre pression aussi aux politiques et dire voilà, on a suivi Caterpillar, voilà, pas ça nous-mêmes. Il faut à un moment donné faire un tas de mieux et on espère que dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, on va aussi attirer la problématique. Alors, autant en 2013, on dénonçait déjà tout ça, On a eu l'occasion cette fois-ci d'aller jusqu'au Parlement européen. On connaît les rapports de force européens qui ne sont pas du côté des travailleurs, mais on a quand même eu l'occasion de discuter avec des politiques beaucoup plus proches du monde du travail. Et je pense qu'il faut être très clair. On ne peut peut-être pas aujourd'hui empêcher une entreprise de licencier parce qu'elle fait des bénéfices, mais ce qu'on veut en tout cas essayer, c'est d'éviter de tomber directement dans le piège, de négocier le volet social et au minimum essayer d'imposer l'entreprise avant qu'elle quitte son territoire, c'est qu'elle mette à disposition son site, ou en tout cas qu'elle essaie de trouver des pistes industrielles. Et pour redonner justement la notion sauvegarde de l'emploi aussi aux travailleurs qui, peut-être, à travers cette loi, ont eu le mauvais réflexe de s'orienter directement vers des primes de licenciement qui ne sont que un petit pansement que de perdre un emploi. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de notre stratégie. Donc on n'en est pas encore là, mais on travaille sur plusieurs pistes. Mais bon, actuellement, on est encore dans la consultation et dans les décisions de mettre à mal cette multinationale par rapport à son choix stratégique.
Merci. Je vais donner la parole à qui veut la prendre.
Oui, par rapport à la RIE 3, qui est en fait cette réforme de l'imposition des entreprises qui a pour but de continuer à attirer des multinationales pour qu'elles puissent venir chercher leurs bénéfices ici, il faut peut-être apporter deux ou trois précisions, rappeler deux ou trois choses. C'est qu'elle s'appelle RIE 3, parce que c'est la troisième réforme qui vise à baisser toujours plus l'imposition des entreprises. Et puis pour compléter ce qu'a dit Jean, peu de gens savent que les entreprises, elles peuvent déduire, elles peuvent reporter les pertes qu'elles vont faire actuellement une année pendant 5 ans sur les bénéfices qu'elles font ultérieurement, ce qui réduit encore leur imposition. Il y a aussi le fait, ce qui est très important dans l'évaluation des pertes fiscales, dont peu de gens parlent, parce qu'à mon avis, c'est sous-estimé, cette évaluation, c'est le fait qu'il y a actuellement des indépendants, des médecins, des avocats, etc., qui sont taxés, non pas comme entreprise, mais qui sont taxés comme personne physique. C'est-à-dire, ils sont taxés, comme vous et moi, avec beaucoup de déductions qu'ils peuvent faire au niveau professionnel, mais enfin, ils sont taxés au niveau des personnes physiques. Si le taux d'imposition des entreprises descend très bas, elles auront tout intérêt à se mettre en personne morale, en entreprise, et donc à être taxées beaucoup moins. Et ça va avoir des répercussions également sur les rentrées fiscales des personnes physiques. Et ça, personne ne peut l'évaluer, personne ne peut le savoir. Ce que tout le monde sait, c'est que quand on change quelque chose dans la fiscalité, ça a forcément des répercussions sur d'autres aspects. Et ça va être donc une baisse des rentrées fiscales qui, à mon avis, va être largement supérieure à 500 millions. Voilà un petit peu les précisions que je voulais apporter. Et puis, je crois qu'il faut voir ça dans le contexte général. Dans le contexte général, il y a une tendance très nette à vouloir, non pas simplement, diminuer la fiscalité des entreprises. On le voit partout en Europe aussi. Dans tous les pays, il y a une diminution au nom de la concurrence. Mais le but à terme, c'est de supprimer définitivement l'imposition sur les bénéfices. Pour être clair là-dessus, il y a dans les milieux dominants l'idée de dire la fiscalité des entreprises, il faut la supprimer, elle ne doit reposer que sur les personnes physiques, et si possible, à travers les taxes sur la valeur ajoutée et non pas sur le revenu, ou alors sur des impôts à taux fixe. C'est ça la tendance générale. Du néolibéralisme contemporain, il faut avoir ça à l'esprit, et si on ne mène pas ces batailles systématiquement, eh bien, on va vers ce vers dans cette direction.
Merci. Je ne sais pas les deux.
Oui, je pense que comment va devenir l'équipement de l'entreprise. J'ai entendu que les syndicats ont pu supplanter le management pendant un temps. Est-ce que ça ne pourrait pas continuer comme ça, sans la direction, sans les Suisses?
C'est vrai que je n'ai pas touché un mot, mais en plus de toute cette optimisation fiscale, il y a déjà des biens qui n'appartiennent plus à la Belgique, qui appartiennent à la Suisse. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été débattu. On ne parle pas de l'entièreté de l'entreprise, mais en tout cas, il y a des biens d'entreprise, notamment, bien sûr, tout ce qui est matières premières, les machines et certains biens immobiliers. Ça appartient à la Suisse. Ça aussi, ça a été dit quand même, alors que c'était tout appartenait à la Belgique, puis quand il y a eu ce changement fiscal qui a été fait avec ce nouveau montage en 2001, on a vu comme ça disparaître. C'est toujours là physiquement, mais ça n'appartient plus à la Belgique. Alors, si c'est de l'autogestion que vous parlez, là, comme ça, actuellement, c'est pas possible. En tout cas, on n'est pas non plus dans le cadre d'une faillite où il y a une entreprise qui faillit et les travailleurs essayent de. Et puis le produit aussi. Il faut savoir que c'est un produit qui, en Belgique, est très très peu vendu et que tous les brevets appartiennent encore à quelqu'un. Là, techniquement, pour l'instant, ce n'est pas possible. Le débat qui a lieu, ou en tout cas, les déclarations qui ont lieu au lendemain de la fermeture, qui se sont un petit peu calmés, mais ça a fait quand même débat dans différents partis politiques, c'est si jamais Caterpillar ne veut pas laisser son site, voilà la possibilité de l'exproprier. Ça, c'est quand même fait. C'est un terme en Belgique qu'on n'avait plus entendu parler depuis très très longtemps, mais c'était déjà venu à l'ordre du jour avec le cas d'ArcelorMittal qui avait fait quand même des méthodes frauduleuses, pour dire c'est vraiment comme ça. C'était quand même saisi du site, c'est commencé, et ici, est venu directement, même pas du côté syndical, mais les politiques ont dit ce site, on ne va pas le laisser mourir, parce qu'effectivement, il est quand même assez moderne, et voir s'il n'y aura pas la possibilité de l'exproprier. On n'est pas encore là, mais en tout cas, c'est assez nouveau, ce genre de discussion.
Oui.
Moi,
oui.
Moi, j'aimerais demander, et s'il y a un ou plusieurs sites de production Caterpillar en Belgique, et s'il y a plusieurs, si les contraintes qui pèsent sur les francophones de Wallonie sont plus importantes que celles qui pèsent sur les flamands.
Alors, de site de production, il y a un deuxième site qui est basé en Flandre, mais qui est plus un site de pièces de rechange. Le nouveau cartographie s'occupe maintenant principalement de l'Europe et encore une partie des pays de l'Afrique du Moyen-Orient, mais c'est totalement différent que notre entreprise. Bien souvent, Caterpillar ne fait pas deux mêmes entreprises avec le même produit ou similaire dans le même pays. Donc il n'y a pas ce problème nord-sud qui existe mais en Belgique, mais pas par rapport à
Bien, je remercie tous les trois. Je pense que c'est très positif d'avoir ce genre de démonstration, même s'il y a peu de monde. C'est un exemple de solidarité internationale dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas toujours évident à matérialiser. Donc, à ce titre-là, c'est un événement positif. Alors, ce qui marque, je trouve, dans l'exposé de la situation en Suisse, c'est quand même l'opacité hyper importante à tous les niveaux, sur la fiscalité, sur le nombre d'emplois, etc. Je pense que ça pourrait être un axe de campagne dans la mesure où le chantage est d'autant plus grand qu'on n'a aucune mesure de vérifier ce qu'ils nous disent fondamentalement. Et à ce titre-là, moi je me demandais, pour toi, est-ce qu'on a un moyen d'évaluer quelle est la perte d'emploi en fonction du taux? Parce que tu dis, bon, c'est pas très crédible leur histoire de au-dessus de 13,49 on se barre tous. Est-ce qu'il y a des études disons, qui nous donnent ne serait-ce qu'un ordre d'idée parce que là, on est quand même assez démunis pour répondre à ça. Bon, évidemment, l'argument que tu as avancé de l'utilité sociale est primordial, mais.
Oui, alors il y a toutes sortes d'études qui essaient d'estimer l'impact de la position des entreprises sur l'emploi en Suisse. Il y en a une qui vient sortir la semaine passée, hein, qui chiffre effectivement. Plusieurs centaines de milliers d'emplois en Suisse, des pertes possibles si la réforme ne passait pas. C'est des études qui ne sont pas très sérieuses pour deux raisons. C'est extrêmement difficile de mesurer l'impact réel sur l'emploi parce que, premièrement, la raison de choisir un siège pour une multinationale est certes d'ordre fiscal, mais pas surtout. J'ai fait l'exemple tout à l'heure de Mercier-Renault. évidemment décidé de partir avant le délai imposé de 5 ans et que donc il a dû rembourser le rabais fiscal. Tout simplement parce que les bénéfices qu'ils ont pu calculer par d'autres transactions, notamment des localisations en Chine, j'ai dit tout à l'heure, étaient plus avantageuses pour l'accès que le risque régional. Donc ce n'est pas que les raisons fiscales qui font que les entreprises restent ici, il y a toute une série d'éléments qui expliquent historiquement pourquoi c'est ce type d'ailleurs de statut d'entreprise à statut spécial qui sont venus en Suisse, qui sont essentiellement spécialisés dans des questions de transactions financières mondiales, parce que c'est un pays, vous savez, sur la promotion économique du canton de Genève, un des premiers éléments qu'ils mettent, c'est le climat de paix sociale qui règne en Suisse. Et ça, c'est un élément important pour des entreprises qui sont actives dans la finance, de pouvoir se baser sur une stabilité politique impressionnante en Suisse, quand même, et un niveau de conflictualité sociale relativement basse. Donc, c'est un élément qui pèse, on parle plus que la fiscalité. Il y a une infrastructure qui fonctionne en Suisse, hein, vu qu'il n'y a pas de grève, quasiment pas de grève, les transports fonctionnent, l'électricité fonctionne, les communications fonctionnent, c'est des éléments qui pèsent au choix d'une entreprise de venir en Suisse ou d'aller ailleurs. Donc certes, la fiscalité joue, mais pas seulement. C'est extrêmement compliqué de savoir si on peut faire un gamelle, par exemple, demain par terre, pour aller où, à vrai dire, en comptant tous les avantages que la Suisse offre aussi. Et deuxièmement, là où la fiscalité joue, bah, joue aussi la concurrence fiscale. Donc effectivement, on peut baisser la fiscalité en Suisse, on trouvera toujours un paradis fiscal avec une fiscalité plus basse. Donc de toute façon, de prétendre qu'à 13, 49, 13, 52, je ne sais pas pourquoi, les entreprises restent en Suisse, l'histoire prouve le contraire. Dès qu'ils voient une opportunité de l'implanter ailleurs, ils le feront de toute façon. Donc je trouve toute étude qui essaie aujourd'hui d'estimer un impact réel sur l'emploi n'est pas une étude sérieuse. Et on le voit dans la vie, on le verra massivement d'ici le 12 février sur la rotation nationale et d'ici septembre, encore plus massivement à Genève, que c'est un argument de peur qui sera évidemment utilisé massivement par la droite et le patronat. Il y aura intérêt de ne pas entrer dans ce jeu des chiffres, parce que de toute façon, on ne va pas y gagner grand-chose. C'est pour ça que j'ai essayé de développer un peu une notion d'utilité sociale de l'emploi et montrer surtout le prix qu'on va payer en essayant de regarder ces multinationales ici, aussi en termes.
Je vais peut-être juste rajouter un élément. Je vous ai dit au début que dans le canton de Vaud, donc le canton voisin de Genève, si ça se confirme, d'après la grande banque le Crédit Suisse, le taux d'imposition totale de ces multinationales était de 4%. Et ça, c'est depuis des années. Et Genève, c'était 11,6. Donc moi, j'ai posé la question à droite, Parlement genevois, j'ai dit, mais comment vous expliquez à la Commission des Finances ou au ministre des Finances cantonales, comment vous expliquez ce que vous nous dites que tout le monde va partir si. Parce que le taux qu'il faudrait fixer à Genève pour que ça soit neutre fiscalement entre la baisse pour les entreprises suisses et la hausse pour les multinationales, c'est 16%. 16%. Comme taux d'imposition, ça reste extraordinairement compétitif sur le plan international. C'est très intéressant, 16%. Alors, je l'ai dit, on passerait de 12 actuellement, 11,6, à 16. Donc, on augmente de 4. Et ils partiraient tous. Et quand la différence était de 11,6 ici à 4, dans le canton voisin, ils ne sont pas partis. Oui, ils sont pas partis. Donc, la seule chose qu'on voit dans l'étude du Crédit Suisse, c'est que depuis 10 ans, le canton de Vaud a beaucoup plus de sièges de multinationales qui viennent s'établir. Mais les Genevois ne sont pas partis. Les Vaudois feraient bien de faire attention, parce que ces conditions tout à fait invraisemblables à 4%, qui ont été rendues possibles par des arrêtés particuliers, elles vont, si elles ne durent pas, ces entreprises partiront. Donc il y en a qui se disent, ça ne fait rien, on fait 4%, on les attire tous, et puis on a plus d'argent quand même pour distribuer des prestations. Mais c'est tellement instable. Et Genève
a fondé son développement sur ce type d'entreprise. Et Alessandro a tout à fait raison. Le problème, c'est que si tu veux avoir un emploi stable, tu dois avoir une politique industrielle qui tourne vers la production locale, des technologies qui sont des technologies d'avenir, etc. Puis tu as une certaine, on est dans le capitalisme, on ne peut pas avoir une sécurité d'emploi, bon. Mais tu as une certaine, disons, possibilité d'enraciner dans une économie réelle tes emplois. Là, c'est vraiment Genève, et ça se voit avec toutes les crises financières internationales, Genève est très sensible au choc des crises financières, parce que les grandes boîtes de trading qui vendent et qui achètent sans que les marchandises passent par Genève, c'est la même chose. C'est que des écritures, des ordinateurs et des bureaux, mais une grande partie du commerce du pétrole, des céréales, etc., transite par Genève. Ça fait d'ailleurs des emplois qui souvent, c'est des gens qui viennent de Londres avec toute leur équipe ou de Paris qui s'établissent à Genève pour des raisons fiscales. Donc c'est des emplois qui ne sont pas forcément des emplois locaux, c'est des emplois qui sont délocalisés ici. Après, ils s'en vont. Voilà, donc c'est cette politique-là qu'on doit combattre. Et ça crée toutes sortes de, je suis d'accord avec sans doute toutes sortes d'emplois subalternes qui sont les petites mains de ces sociétés, les services, etc. Ça crée une société un peu pas solide du point de vue de... Et je voulais juste poser une question parce qu'on se raconte ici concrètement les travailleurs belges de Caterpillar, ils en sont où aujourd'hui du point de vue de salaire, du point de vue de quelles sont les dispositions en Belgique pendant combien de mois on reçoit un salaire? Est-ce que vous vous retrouvez dans l'entreprise ou est-ce que l'entreprise est ferme? Moi, ça n'est pas. Concrètement,
je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, cette procédure fait en sorte que, pour l'instant, Caterpillar ne peut pas parler de fermeture. C'est une intention de fermeture. Donc, contractuellement parlant, l'entreprise devrait fonctionner normalement. C'est ce qui se passe, mais pas à 100%, parce que là, effectivement, ici, on est tous sous une menace de licenciement, donc ça a créé quand même une coupure dans le temps rythme normal, mais contractuellement parlant, il doit continuer à nous fournir des pièces, on doit continuer à travailler, et donc, d'office, on est payé. Alors, pendant cette période, il y a cette procédure qui s'enclenche avec des comités d'entreprise où sont représentés les travailleurs par l'organisme syndical et le membre de direction pour consulter, informer et essayer de comprendre ce qui s'est passé, mettre des avis et on a la possibilité de mettre des alternatives. Il n'y a pas un délai bien précis. En 2013, ça a duré 10 mois. Bon, ici, ça a duré déjà depuis le 2 septembre. Et on verra d'ici 2017 comment ça va évoluer.
Quand les huissiers arrivent suisses, qu'est-ce qu'ils disent?
Ah, ici, il vient juste constater que voilà, il y a un camion qui n'est pas sorti de pièce, et c'est pour ça qu'ils sont venus une fois. Ils ont profité d'un moment où on était en réunion, on n'était pas tous présents au niveau syndical, pour essayer de voir une faille de notre côté et de commencer à constituer un dossier. Voilà, comme quoi on ne respecte pas le contrat qui est lié entre la Suisse et la Belgique.
Donc l'entreprise est tout.
Mais ici, il est venu, il a constaté, mais on n'a pas fait partie de nous.
Il y a des travailleurs qui sont partis parce qu'ils disent non, on cherche un bon endroit.
Mais au niveau ouvrier, 100% des gens qui sont sous la menace de licenciement sont en prison.
D'accord. Ouais.
Je voulais savoir si au niveau des prochaines nuits, vous avez vu qu'il y aurait des actions qui sont peut-être bien planifiées ou pas, vu qu'on a des camarades politiques qui sont là, s'il y a déjà des dates avec des actions précises ou éventuellement on va venir soutenir.
Probablement qu'on va en faire une d'ici la fin de l'année. Bon, ici on a un calendrier qui est déjà en train de se mettre en place. On attend des rendez-vous assez importants localement. Bon, après il y a une fermeture traditionnelle de l'entreprise. Comme on est dans un fonctionnement normalement normal, l'employé doit faire en sorte que l'usine doit fonctionner normalement. Donc, entre Noël et Nouvel An, il y a une fermeture. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant cette fermeture, on planifie une action qui serait plutôt locale dans, probablement dans la région, rien défini, avant la fin de l'année.
Merci. Une question. Comme Jean l'a dit au début, le point de départ de cette réforme qui arrive dans la gueule en Suisse, c'est calmer le jeu au niveau international. C'est des pressions de l'OCDE et de l'Union européenne qui disent arrêter avec cette concurrence fiscale déloyale que mène la Suisse. Or, en fait, ce qu'on voit bien avec l'explication de Jean, c'est qu'au contraire, c'est RI le 3, cette réforme d'imposition des entreprises 3, va non pas calmer les tensions et la concurrence fiscale de l'international, mais accroître ces tensions en se rendant encore plus compétitif. Ce qui est assez paradoxal, et ce qu'on peut penser vraiment, c'est que la Suisse joue sur une situation internationale européenne et au-delà même tellement en crise que l'Union européenne aura d'autres chats à fouetter que de s'attaquer au paradis fiscal de la Suisse. Donc, ils peuvent se permettre, dans le climat géopolitique international, de mener cette offensive un peu en douce, en disant, vous voyez, on arrête avec les statuts fiscaux privilégiés, puis sans trop en parler, on introduit toute une série de nouveaux mécanismes fiscaux qui permettent quand même de rendre la place suisse, la place économique suisse encore plus déloyale sur le plan fiscal. Or, j'ai l'impression, je ne sais pas si le parallèle est pertinent à faire avec le secret bancaire, mais en 2008, avec la crise financière, quand tu as évoqué au début de ce que tu disais, le secret bancaire suisse, le système de secret bancaire suisse a été attaqué et a été en partie remis en cause par le fait qu'il y avait non seulement une insatisfaction en Suisse de ce système, parce que disait, mais ça ne va plus, le monsieur, madame, bon Suisse avait son action chez UBS ou chez Crédit Suisse et voyait qu'elle avait chuté. Et il y avait cette combinaison d'une insatisfaction à l'intérieur avec une insatisfaction qui venait de l'international avec des très fortes pressions qui venaient notamment des États-Unis contre le système bancaire. J'ai l'impression que l'enjeu aujourd'hui, il est peut-être en partie aussi là, dans la mesure où des pressions internes venant des forces syndicales et de la gauche combative, disons, parce que le PS est à moitié à reculons chez nous sur cette réforme, soit s'y oppose au niveau fédéral, même avec peu d'engagement, soit soutien, voilà, même problème de la social-démocratie partout en Europe, ça suffirait pas, ça suffira pas. Et je me demande dans quelle mesure il n'y a pas moyen de forcer, dans des cas comme Caterpillar, de pousser des collectivités publiques régionales, voire même fédérales, alors là, ce serait le paradis, à se positionner sur ces sujets et à les réveiller sur ce rôle déloyal de la Suisse sur le plan fiscal, pour avoir des voix publiques de collectivités qui pourraient s'élever là-dedans et s'introduire dans le débat suisse, qui pourrait donc aussi après avoir des conséquences positives pour les travailleurs en Belgique et ailleurs. Cette combinaison de la pression de l'intérieur en Suisse sur son rôle de paradis fiscal avec des pressions qui viendraient de l'extérieur et pas de... Même si votre parole, moi je la trouve parfaitement légitime, mais évidemment si c'était la Wallonie, ou le Parlement de Wallonie ou un Parlement plus local ou quoi que ce soit qui se positionnerait contre ce que fait la Suisse sur ce plan-là et les générosités à l'égard du siège de Caterpillar à Genève, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie de lutte de chercher à positionner les collectivités publiques locales vis-à-vis de ce que fait le siège genevois? C'est un peu ça qui m'intéresse.
Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que peut-être qu'en 2013, on s'est axé beaucoup sur ce fait parce que en 2013, on était trop cher, on coûtait trop cher. Donc, nous, on a essayé de combattre cette stratégie, mais il manquait des données, et donc on mettait ces manquements de données sur le fait qu'il y avait la partie fiscale. Ça peut être faisable, mais dans le cadre justement de la remise en cause de cette loi de l'eau, on peut intégrer aussi cette partie fiscale, et effectivement, on a aussi des parties en Wallonie qui sont en pleine progression et qui ont dénoncé toutes ces méthodes fiscales. Donc des collections sont totalement possibles. Et moi je pense qu'on pourrait partir de cette loi-là et intégrer probablement un paragraphe aussi sur la partie fiscale. Parce qu'à un moment donné, la loi nous permet de demander des informations et de consulter. Mais comment on veut consulter si tout est bloqué ici? Donc effectivement, on pourrait intégrer dans cette loi qu'on veut aussi changer, parce qu'à un moment donné, après plus de 16 ans de pratique, si elle devait protéger l'emploi, on peut faire un bilan, il y a 5% et encore qui ont été protégés. Bien, donc cette loi n'a pas fait l'effet qu'on attendait. Donc, ça aussi, on peut mettre l'accent sur la protection de l'emploi, mais à un moment donné, on pourrait aussi intégrer la partie consultation qui est court-circuitée pour ceux qui ont des sièges au Luxembourg ou en dessous. C'est tout à fait possible.
Je peux avoir une question à toi, Jean.
Oui, oui, après on va arrêter parce que c'est vraiment très fatigué, je pense.
Admettons que la Suisse adhère aux accords transatlantiques de libre-échange et commerce. Que deviendrait-il avec les dispositions de l'IE 3? Est-ce que deviendrait tout l'édifice caduc?
Je ne pense pas que l'adhésion à traité. Comme celui-là rendrait les dispositions de la troisième réforme d'imposition des entreprises caduques, mais il y en a qui, disons, il y a un des arguments qui a été avancé par des critiques de la PERIL 3 en Suisse qui disent que il y a des dispositions européennes qui sont en train de se mettre en place, mais je ne sais pas à quel point elles vont être appliquées. Qui disent que si le siège d'une multinationale européenne va dans un État tiers et qu'elle profite d'une baisse de plus de la moitié de son imposition dans le pays, elle sera imposée plus lourdement, la filiale sera imposée plus lourdement dans le pays européen où elle est. Il y a un problème avec l'Irlande, qui a aussi une fiscalité extrêmement irlandaise. Fiscalité extrêmement faible au sein de l'Union européenne. Je ne sais pas comment l'Union européenne va... La Suisse, elle a cette tactique depuis très très longtemps de partir du fait accompli, d'avancer tranquillement. Quand les attaques sont trop dures, surtout si c'est les États-Unis, parce que les États-Unis ont une rétorsion énorme sur la Suisse, mais la Suisse, elle joue sur la division des pays européens. Elle va avoir les Allemands, elle va avoir les États-Unis. Et puis, les élites européennes, là, c'est aussi leur fortune privée en Suisse. Donc, il y a aussi des moyens de pression. Tous ces gens qui sont dans les ministères, on le voit bien avec la France aujourd'hui, mais la Belgique est pareil, ils ont de la fortune en Suisse, ils ont des comptes en Suisse. Donc, il y a des moyens de. Je pense que quand on discute avec eux, on peut sentir gentiment que, voilà, la Suisse est une immense puissance économique et financière qui n'a aucune relation avec sa taille et son look de pays un peu montagnard, retardé, etc. La Suisse joue toujours au con. Ils ont des experts de la négociation internationale. Ils sont toujours passés. Quand les Américains gagnent très très fort, ils reculent. Ils avancent, etc. Face à l'Europe, c'est plus facile. Donc, moi j'ai utilisé cet argument. Vous ne pourrez pas, les lettres ne seront pas praticables parce que l'Europe va imposer. On verra. Et pour le moment, ils s'en sont. Plutôt bien. Pour l'expérience historique, c'est qu'il faut toujours faire le dos rond et maintenir ses positions. Voilà, je vous remercie tout le monde, surtout les camarades belges qui ont passé la journée sous la pluie et bon, qui ont fait cette démarche. Elle est toute petite, je suis un peu désolé qu'on n'ait pas réussi à faire plus. C'est vrai aussi que la chose a été annoncée très tard, donc c'était difficile de la confirmer de la confirmer longtemps à l'avance pour organiser la solidarité. Mais enfin, ça a eu l'avantage d'exister. J'espère qu'on va maintenir les liens avec, pas seulement avec vous, mais avec les travailleurs d'autres pays qui sont victimes de l'aspect parasitaire. Une partie du capitalisme suisse, pas seulement ça, mais aussi les entreprises, les travailleurs, les produits, mais Genève particulièrement spécialisé dans ce rôle parasitaire. Merci à tous.
Merci à
J'ai marqué Collège Royal d'Édimbourg parce que ça marque mieux. D'ailleurs, il y a trop de discrimination entre les bahuts. C'est vrai, après tout, c'est toutes des écoles, non? On est tous faits pareil, hein? Je trouve que l'important, c'est l'idée générale, c'est pas les détails qui comptent. La plupart des gens, ils sont carrément obsédés par les détails. À quelle école t'as été? Combien d'options t'as choisi? C'est peut-être 6 ou, je sais pas, 0? Aucune importance. Ce qui est important, c'est que je sois là, un point, c'est tout.
Libre Radio, le choix de la bonne option.